Monsieur.
Pour l'anecdote, je crois que la thèse de doctorat de Marx était sur les trois dictionnaires.
Exactement. Ça s'appelle Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et chez Épicure. C'est tout à fait. Oui, oui. Et il avait mis en exergue une citation du Prométhée d'Eschyle, Je hais les dieux. Et son ami d'alors, Bruno Bauer, lui avait dit qu'il lui déconseillait de vexer le jury. Et Marx répond qu'il ne souhaite pas de carrière universitaire et qu'il laissera cet exergue, petite phrase au début. Et c'est un très bon travail, si on peut se permettre de juger un immense comme ça, c'est un très bon travail à une époque où on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des recueils bien ordonnés, des citations concernant l'épicurisme. Alors, ça me permet d'être bavard, donc j'en profite. J'ai quand même oublié une chose énorme. J'ai dit, Épicure est presque démocritéen en physique. La thèse de Marx tourne tout autour et même généralise une doctrine assez bizarre d'Épicure. Marx en fait, si vous voulez, énormément. Un peu trop même, mais c'est très beau. Et en effet, dans l'épicurisme, cette bizarre théorie qui est la suivante. Pour expliquer la liberté, pas forcément la liberté fantaisiste, le caprice, la possibilité de commettre des actes gratuits. Vous connaissez la théorie de l'acte gratuit est illustrée, par exemple, dans les caves du Vatican de Gide. Un monsieur commet un crime dans un train, il prend le premier bonhomme qui passe. En gros, il veut prouver qu'on peut faire n'importe quoi sans motif, et que c'est ça la liberté. Je reviens à l'essentiel. Ce n'est pas la liberté d'Épicure, mais Épicure veut expliquer qu'un cheval fonce vers un endroit s'il en a envie, et que je lève le bras si j'en ai envie. Une grande affaire, lever le bras. Parce que dans le Don Juan de Molière, Sganarelle, il veut montrer à son maître Don Juan qui croit à rien qu'on est trop bien fait pour que ce ne soit pas le bon Dieu qui ait fabriqué tout ça. Il lève le bras, quand je veux je lève le bras, quand je veux je lève la jambe, et il se casse la figure. Enfin, cet effet comique tourne autour du grand débat, liberté, nécessité, est-ce que tout ce qui se passe vient d'une cause antécédente? Alors, j'y viens enfin. Épicure imagine une théorie qui évidemment fait sourire et qui fait plier de rire ses adversaires. Les atomes, ils ont trois causes de mouvement qui sont d'abord leur pesanteur, d'autre part, les chocs, s'il intervient un choc, un atome est cogné par un autre ou par un corps composé, il va changer de trajectoire, mais aussi la fameuse déclinaison ou clinamen. C'est-à-dire l'atome aurait une petite faculté spontanée de dévier de sa trajectoire de façon absolument imprévisible pour un observateur éventuel. Pourquoi ça? Parce que si tu veux expliquer la liberté, dit Épicure, il faut bien qu'on n'introduise pas ça au milieu de la chaîne. On ne va pas dire l'homme est libre et le reste de la nature, non. Ou l'animal est libre et pas le reste. Donc, dès les éléments, il introduit cette spontanéité. L'atome peut dévier d'un tout petit angle de sa trajectoire à un temps indéterminé. Alors ça, ce n'est pas du tout chez Démocrite. Et si je vous raconte ça, c'est parce que dans la thèse de Marx, Marx généralise ça. Il y a des études très très précises, hein. Ce n'est pas une dissertation poétique, c'est une dissertation, ça s'appelle comme ça, mais au sens allemand, une vraie thèse, avec des notes en bas de page, Plutarque, etc. Mais enfin, il dit finalement la déclinaison, Épicure, il en parle tout le temps, et ça c'est du Marx, c'est pas vraiment, mais c'est une belle manière de lire Épicure. Les dieux déclinent du monde, ils ne s'occupent pas de nous, le sage décline de la cité, on ne fait pas de politique, on vit dans un jardin, dans la banlieue, à l'extérieur d'Athènes. Il y a de la déclinaison un peu partout. La sagesse, la paix de l'âme, ça consiste à décliner à partir de la souffrance. Enfin, Marx abuse un peu de la métaphore, mais voilà pourquoi vous m'avez donné aussi l'occasion de parler de cette bizarre théorie. C'est pas seulement de la muséologie pour continuer à parler tout seul, hein, parce que pour quelqu'un qui est matérialiste, ou qui est intéressé par le marxisme, par exemple. Dans les années 60, on a parlé beaucoup de structures, etc. Bon, il y a toujours un moment où on se demande ce que demande un épicurien. Si tu enlèves cette déclinaison, ou pour le dire en termes plus consensuels, parce qu'on n'est pas tous les disciples d'Épicure jusque dans ses théories les plus naïves. Si tu crois que tout est absolument nécessaire, tu ne pourras plus décerner ni louange ni blâme. Un méchant, un héros, un salaud, tout ça, salaud, c'est vrai que c'est une catégorie philosophique depuis Sartre. On se permet de juger les gens. Alors comment expliquer, c'est par exemple le système de Spinoza, système archi-prisé par beaucoup de philosophes athées ou matérialistes, comment expliquer qu'on se permet de porter des jugements sur les gens si tout est absolument déterminé? Donc il y a une grandeur dans cette théorie naïve, c'est d'essayer d'expliquer, certes naïvement, la liberté de mouvement du cheval, la liberté de lever le bras, et puis peut-être parfois la liberté d'avoir du courage ou de la lâcheté dans telle ou telle situation. Bon, j'avais parlé de questions, c'est à vous de les poser.
Est-ce que les travaux sur les épicuriens ont été ébranlés après la découverte en 1897 par Thomson, que l'atome était sécable? Non.
Non, parce que, je vous dis ça très abruptement, on a pu le dire éventuellement, mais bon, on dit que l'atomisme contemporain de la physique, qui est respectable et devant laquelle on se prosterne tous, mais bon, aujourd'hui les savants ont tendance à penser qu'en dehors de la science, il n'y a rien, ça commence à Dalton 1807. Encore une fois, des gens comme Newton, qui sont pas rien du point de vue de la physique, ont également développé des théories atomistiques. Enfin, pour ce que j'en sais, l'atomisme contemporain sérieux, c'est ça, à partir de Dalton. Alors, c'est quand même pas de la faute des anciens, si atome, qui veut dire insécable, on a affublé de cette appellation-là une très très grosse brique dont on s'est aperçu, comme dira le physicien Rutherford, que c'est un monde en raccourci, que dedans il y a des distances immenses entre des microparticules, etc. L'idée générale, moi je ne vais pas faire de la physique à la place des physiciens, mais ça m'intéresse évidemment quand même beaucoup de savoir que quand on parle de quark ou d'autre chose ou de boson, on est quand même encore en quête, dans la physique la plus pointue, de quelque chose qui serait une sorte de briquette élémentaire, qui serait encore plus fondamentale que tous les neutrinos ou les électrons ou les sous-protons que vous voudrez. Peut-être que la physique ne découvrira jamais quelque chose de ce genre, mais l'intuition qu'il y a des petits grains élémentaires, elle n'a pas bougé. Et puis, bon, bah, tant pis si on a appelé atome quelque chose qu'ensuite on a décomposé, effectivement, en particules plus petites. Bah, c'est le hasard du langage. Vous comprenez? Je suis très très lourd, mais pour être encore plus lourd, on aurait pu appeler ça patate et puis attendre de trouver le boson de je ne sais qui pour dire, tiens, c'est ça qu'on va appeler l'atome. Ça, c'est... Mais l'idée générale, si vous voulez, pour être sérieux, c'est que de toute façon, en Inde, chez les Arabes, chez les Grecs, par différents procédés, on a pifométré que quelque chose de l'ordre de la division de la totalité en espace vide et petits grains, ça devait être ça la solution. C'est pas pour ça que c'est vrai, mais enfin, ça veut dire que c'est quand même, avec beaucoup d'expérience et beaucoup de rationalité, une solution qui se présente à des esprits pas trop mystiques, pas trop porté à spéculer sur l'au-delà ou sur l'occulte.
Pour revenir à l'Épicure lui-même, il me semble, après ce que vous nous avez dit, que sa philosophie, telle que je l'ai comprise en tout cas, elle me semble beaucoup basée sur la liberté, puisqu'on a toujours le choix. Vous dites à un moment, bon, on peut être soit glouton, mais sur le long terme, ce n'est pas valable, donc ils vont bien manger finalement, donc ça nous laisse toujours un choix. Donc, je ne comprends plus très bien, du coup, ensuite, vous avez parlé de nécessité.
Oui.
Il me semblait que justement, c'était pas tellement une philosophie. Enfin, ce que l'on vient d'en entendre, c'était pas tellement basé sur la nécessité, sauf peut-être au niveau des choses, mais que chez l'être humain, il y avait une part de liberté énorme, quoi, finalement.
Puisque... Oui, oui. Mais je me suis fait mal comprendre, mais je disais la même chose, madame. Et je peux le répéter, si je me suis fait mal comprendre rapidement. le choix, comme vous dites, ça suppose la liberté. Je suis d'accord, évidemment, que d'après Épicure, c'est très bien de manger frugalement. Il y a même quelques passages qui nous font verser une ou deux larmes. Il explique quelque part qu'avec un bout de fromage, un peu de pain et d'eau, il a fait un festin. Mais le sage est disponible pour les grandes occasions. Il l'écrit. Si vous l'invitez à manger du poisson, il dira oui. Le poisson, c'est un mets très cher chez les Grecs, curieusement, même si la mer est partout. C'est pas des grands marins. Donc, faire bombance, c'est pas interdit. C'est même très bien. Une vie sans fête est que comparable à une route sans auberge, disait Démocrite, mais sur ce coup-là, Épicure pourrait dire la même chose. La liberté, j'opposais ça à une ligne qui pourrait comporter Démocrite, en un sens, hein, mais qui passe par Spinoza. Je dis, Épicure ne dit pas qu'il n'y a pas de nécessité, il dit qu'il y a des choses qui dépendent de la nécessité, il y a des lois de la nature pour Épicure. Il y a des choses qui dépendent du hasard, et il y a ce qu'il dit, l'appelle en grec « to ephémin », ce qui dépend de nous. Donc, c'est à cause de cette sorte d'obsession de la liberté qui va jusqu'à imaginer que même dans l'atome, dans la briquette élémentaire, il y a cette petite possibilité de dévier, qui est une liberté de mouvement, une marge d'indétermination, voilà, ça c'est le meilleur mot, hein. C'est-à-dire une spontanéité qui fait que même un atome, on ne peut pas dire qu'une intelligence qui aurait toutes les données de l'univers sous les yeux pourrait prévoir exactement ce qu'il va faire dans les 5-6 instants qui vont suivre. Je vous rends la parole, mais vous connaissez cette bible du déterminisme du début du 19e siècle, l'astronome physicien Laplace. Une intelligence qui connaîtrait toutes les données de l'univers, qui pourrait soumettre toutes ces données à l'analyse. Rien ne serait incertain pour elle, ni les mouvements des plus grands corps de l'univers, ni ceux du plus léger atome. Elle aurait devant elle le passé, le présent, le futur de l'univers. Donc cette idée-là que si on connaît toute la chaîne des causes, on sait ce qui va suivre, Épicure la refuse. Et c'est la grandeur, je crois, de ce matérialisme, de considérer qu'il faut bien faire une place à l'indétermination. Bien sûr, certains disent qu'on peut s'alimenter dans ce qu'on sait de la physique quantique pour parler d'indétermination, bien sûr. Alors, certains pousseraient les hauts cris à l'université, parce que bon, c'est à 20 siècles de distance, mais enfin, c'est quand même pas ridicule de comparer ça à ce que racontent les grands principes philosophiques qui ne se font pas dans des accélérateurs de particules hyper modernes. Savoir, il faut bien expliquer la spontanéité.
La position, on sait que c'est là, mais on ne sait pas la position de l'atome, enfin, de particules. Ça rejoint un petit peu.
Absolument, puis on ne peut pas prévoir absolument tout. C'est-à-dire, même si on était Dieu lui-même,
ce qui est marrant,
ou aussi fort qu'un Dieu.
Il donne aussi des couleurs et des saveurs aux particules qu'il trouve. Alors, c'est marrant quand tu parlais des briquettes en couleurs qui donnent des. Aujourd'hui encore, on leur donne des saveurs et des couleurs.
Oui.
C'est marrant. Et par rapport à l'acquisition des langues, vous m'avez parlé à un moment donné.
Très vite. Oui. Par rapport à l'acquisition des langues. Dans l'Antiquité grecque et latine, vous savez, je dis latine de façon un peu méprisante, parce que même s'ils sont très forts et très beaux à lire comme Lucrèce, les Romains, c'était les Américains de l'époque, des immenses ingénieurs, mais ils n'ont rien inventé, ils le disent eux-mêmes. Hein. Les jeunes gens bien allaient faire un stage d'un an en Grèce, à l'époque où la Grèce était devenue deux provinces romaines, pour avoir des connaissances des belles lettres. Ils allaient suivre d'ailleurs des cours aux quatre grandes écoles, un petit peu chez les maîtres platoniciens, un peu dans l'école d'Aristote ou de ses disciples, lointains, un peu chez les stoïciens, un peu chez les épicuriens. Cicéron, par exemple, a fait ça. Et donc, chez les Grecs et les Romains, il y a deux grandes questions au sujet du langage. Tout d'abord, est-ce qu'il a été gracieusement donné par un inventeur du langage aux hommes, un demi-dieu en général? Platon, qui croit que c'est comme ça, appelle ça le nomothète, thésis posée, enfin position, nomos la loi, le poseur d'institutions, dit aussi l'onomatothète, c'est-à-dire celui qui a posé les noms. Pour ce premier problème, il y a ceux évidemment qui considèrent au contraire que c'est une création collective, que les hommes ont trouvé ça tout seuls. Les épicuriens, comme Démocrite, considèrent évidemment que personne n'est venu gentiment apporter le langage aux hommes, mais que c'est un produit social qui s'est élaboré au cours de plusieurs générations, certainement. Puis il y a un autre problème qui divise les anciens, c'est est-ce que le langage est fusei, naturel, par nature, ou est-ce qu'il est tessei, c'est-à-dire par position, par convention. Et ce n'est pas le même problème, ça veut dire est-ce que les mots sont des décalques des réalités, est-ce que tous les mots, si vous voulez, sont des onomatopées, des imitations de bruit à l'origine, ou est-ce que c'est vraiment conventionnel, arbitraire, le rapport entre un mot et l'objet qu'il désigne. Et là-dessus, Démocrite et les épicuriens disent pas la même chose. Pour Démocrite, le langage est tessei, c'est-à-dire que faut imaginer des hommes qui se sont assemblés et qui ont décidé qu'on va appeler livre ce que j'ai sous les yeux. On est d'accord, entre parenthèses, que pour tous ces gens-là, il n'y a qu'une vraie langue, une langue rationnelle, c'est le grec. Les autres s'appellent barbares, comme vous savez, en grec, parce que leur langage, c'est un peu comme les oiseaux qui, si on les écoute bien, font barbare dans les bois. Barbaros, c'est une onomatopée qui vient d'une imitation censément du clac-clac des oiseaux. Donc les autres, c'est du sous-langage. Les Grecs, les ancêtres des ancêtres des Grecs, d'après Démocrite, ils auraient par convention décidé de certains mots. Et il y a des beaux arguments, hein. D'ailleurs, il y a des mots qui sont homonymes, qui désignent des choses très différentes, etc. Pour les épicuriens, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si vous trouverez ça plus moderne ou moins moderne, mais en tout cas, c'est différent. Les épicuriens pensent que le langage est par nature. C'est-à-dire que, dans une première étape, un peu comme les chiens, c'est dans Lucrèce, c'est expliqué comme ça, ils ont une gamme de cris assez large, qui exprime soit la crainte, soit le plaisir, soit le désir sexuel. De même, les premiers hommes, dans certaines régions, en fonction de la hauteur des montagnes, ils vivaient en plaine ou en montagne, de leur capacité thoracique, ils ont émis des sons différents en fonction des diverses émotions. Peu à peu, tout ça s'est organisé, et alors on peut dire que, dans une étape très 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 plus tard, très postérieure, on a pu commencer à bricoler une syntaxe, une grammaire et à introduire des conventions, éventuellement des néologismes. On a fait une invention, on lui a donné un nom, on l'a appelé TSF ou ordinateur. Mais le langage, il sort de la poitrine des hommes de façon naturelle, un peu comme le cri des animaux, au moins dans ses premiers rudiments, d'après les épicuriens. Mais enfin, ce qui est évidemment remarquable, c'est que aucun de ces gens-là ne va imaginer l'intervention d'un sympathique dieu ou d'un Thoth, comme chez les Égyptiens, vous savez, qui a apporté gentiment le dieu à tête d'ibis, en général, les hiéroglyphes, hiéroglyphes signifiant empreinte sacrée. La caste des scribes était d'ailleurs une fonction sacrée. On n'avait pas le droit d'écrire les hiéroglyphes, même si on savait écrire, si on n'était pas scribe. Donc, il n'y a aucune magie, aucune religion ou religiosité mêlée, évidemment, à ces histoires d'acquisition du langage. Peut-être que... Moi, je suis à votre disposition, mais je ne veux pas abuser. Si d'autres... Dites-moi tout. Dites-moi tout. Monsieur.
Pourquoi est-ce que le vide absolu, donc, est-il nécessaire de
mouvement ? Je vous réponds tout de suite. Bon, évidemment, ça se serait vu, hein. Je ne suis pas féru de physique, mais justement, intuitivement, vous êtes d'accord avec moi qu'on comprend très bien que les anciens...
La vie partielle suffirait à la fluidité. Je comprends que la matière soit nécessaire au mouvement.
Oui.
Je comprends qu'une fluidité... soit nécessaire, je vois pourquoi le vide, en tant qu'il est absolu, puisque le vide,
oui.
Se caractérise par son caractère absolu. Pourquoi est-ce qu'il est posé comme nécessaire au mouvement
chevalier ? Oui, mais de leur point de vue, j'ai pas de difficulté à vous répondre, mais j'étais compliqué pour arriver sur l'idée que quand on n'est pas baigné dans les espaces à 23 dimensions de la physique contemporaine, ça me paraît assez normal qu'on adhère à ce que nous disent ces anciens. Alors j'ai peut-être pas été clair, ça c'est possible. Je disais, mais c'est autre chose, qu'on a 1000 petits frissons dont on peut faire l'économie si on croit que quand les physiciens contemporains qui vulgarisent parfois un peu vite et qui prétendent, parfois qui arrivent à faire un traité de philosophie à partir de leurs connaissances physiques, quand ils parlent d'annihilation de matière, de création de matière, de vide, comme c'est des homonymes avec le vide au sens où on l'entend dans le langage courant, le vide c'est là où il n'y a rien, on se pose des tas de problèmes, c'est terrible, tout se remet en cause dans ma tête, du vide naîtrait de la matière. Puis vous lisez un jour ce que j'ai fait, mais j'ai oublié les chiffres car je suis très mauvais, que le vide c'est, selon un physicien contemporain, un espace dans lequel il y a... Vous pouvez m'aider peut-être. Il y a moins de n puissance moins 23 molécules par millionième de je ne sais quel volume. Donc ça change tout. C'était une parenthèse que j'ai faite, qui m'a fait mal comprendre. Pour les anciens, quand on parle de vide, c'est du vide, c'est tout ce que j'ai dit. Et donc on rejoint votre vide partiel, ils disent pas qu'on baigne dans le vide, ils disent qu'il y a du plein et du vide. Mais les anciens atomistes, parce que on peut dessiner une sorte de petit vecteur pour aller très vite. Étape numéro 1, Thalès, Anaximandre, Anaximène, les gens de l'école de Milet sur la côte turque actuelle, toutes les apparences se ramènent à un seul des quatre fameux éléments fondamentaux de la physique ancienne. L'air, l'eau, la terre, le feu. Certains bricolent un cinquième qui serait encore plus subtil, qui s'appellerait l'éther. Entre nous, c'est ce qu'on appelle, dans Platon, dans Aristote, et surtout leur traducteur latin, la quinta essentia, d'où notre mot quintessence. Ce qu'il y a de plus subtil dans un bouquin, la quintessence, ça vient de là. Mais enfin, en gros, on se débrouille avec quatre éléments, on n'a pas besoin du cinquième trop souvent. Air, eau, terre, feu, les premiers physiologues, comme on dit, les gens de l'école de Milet, Thalès et ses disciples, vous disent... Le livre, la table, vous, moi, etc., ça se ramène finalement, si on va au-delà des apparences, Thalès dira à l'eau. Anaximandre dira également à l'eau. Et il dira au passage, ça fait rêver qu'un ancien ait dit ça, au 5-6e siècle avant Jésus-Christ, nos ancêtres étaient des poissons, puis ils sont sortis de l'eau un jour. Anaximène, un autre, dira c'est l'air. Bon, pourquoi pas. Et par... concrétion, solidification, décantation, comme vous voudrez, il y a une sorte de route qui va d'un élément à l'autre. De l'air un peu plus compact, ça peut donner du feu, et un peu plus solide encore, ça va donner, disons, de l'eau et puis de la terre. Bon. La deuxième étape, c'est, disons, deux philosophes qui s'appellent Empédocle et Anaxagore. J'entre pas trop dans les détails, mais vous sentez que ça vient. Pour Empédocle, il y a ces quatre éléments, air, eau, terre, feu, plus deux forces cosmiques qu'il appelle l'amour et la haine, qui les réunit ou qui les dissocie alternativement. Et Empédocle compare la totalité de l'être à... il dit que ça se passe un peu comme dans un mur fait de briques. Bon, on n'est pas loin. Anaxagore, lui, considère qu'il y a des particules infiniment petites de toutes choses dans tout. Donc quand je mange un bon beefsteak, il faut supposer qu'il y a des particules infiniment petites d'os, de nerfs, de chair, qui permet d'expliquer la croissance de celui qui mange un bon beefsteak. Mais il y a aussi des particules infiniment petites d'or, de charbon et de tout ce que vous voudrez. Les atomistes, petit 1, c'est la troisième étape, la troisième marche de mon petit podium évidemment, petit 1, ils refusent l'infiniment petit actuel, actuel au sens philosophique, c'est-à-dire en acte. C'est pas possible. Il faut que la division s'arrête. Il faut qu'on arrive à un insécable qui soit ni de l'air, ni de l'eau, ni de la terre, ni du feu, qui soit derrière les apparences et qui soit éternel. Parce que du feu, tu prends un seau d'eau, tu annules le feu. Il faut pas que ce soit un élément qui puisse être sensible, puisque tout ce qui est visible, tout ce qui est sensible, ça peut se détruire. L'expérience nous le prouve tous les jours. D'où l'idée de l'atome. Et petit 2 avec l'atomisme, il y a cette idée totalement nouvelle dans l'histoire de la physique grecque. Tu ne peux pas expliquer le mouvement de là à là s'il n'y a pas du vide. Alors, on oublie ce que j'ai raconté sur le vide absolu ou toutes ces histoires-là. Du vide au sens du langage courant. Il n'y a pas que de la matière. L'air, ce n'est pas que des atomes compacts. Sinon, ça ne bougerait pas. Je dirais un dernier mot à propos de ce que vous dites. De toute façon, on a donné, si je puis dire familièrement, Aristote, qui meurt quand Épicure a 18 ans, donc ils n'ont pas eu l'occasion de se ferrailler entre eux, mais qui a derrière lui Démocrite, qu'il cite abondamment et qu'il critique abondamment. Aristote parle d'antipéristalsis, d'où le mot antipéristaltisme un peu dans notre intestin, en supposant que c'est vraiment tout plein, ce qui n'est pas le cas. Les aliments progressent dans les boyaux, vous imaginez comment, même si on n'est pas spécialiste. Donc ça veut dire, l'antipéristaltisme d'Aristote, que tout se passe un peu comme le poisson dans l'eau. Il propulse de l'eau qui le propulserait par derrière pendant qu'il avance, et tout ça a supposé que dans l'eau il n'y a pas de vide, ce que croit un Aristote. Il faut imaginer que quand je bouge le bras, il y a de proche en proche une couche d'air qui pousse sa voisine, qui pousse sa voisine, toute une sorte de combinaison infinie de mouvements pour expliquer le mouvement dans le plein. Donc, intuitivement, les atomistes ont quelque chose qui ressemble quand même à ce qu'on dira la physique du XVIIe siècle, mais que jusque-là, on ne croit pas. La nature a horreur du vide, etc., a proclamé tout le Moyen-Âge. Les atomistes ont l'intuition que pour que ça bouge, il faut qu'il y ait du vide. Et puisque je suis lancé, que je ne m'arrête plus, il ne s'arrête pas là. Lucrèce expose 4 arguments, et il y en a encore d'autres chez Démocrite. 1, le mouvement, c'est l'énorme argument. Mais 2, tu prends une boule de laine et une boule de même volume de plomb. Tu pèses. Si c'est tellement différent, c'est qu'il y a plus de vide, dit Lucrèce, dans la laine. Différence de densité des objets. 3e argument, les pénétrations, l'intususception, comme on dit en jargon, l'intus en latin c'est en dedans, l'idée de pénétration. Les roches les plus dures sont brisées en 1000 morceaux sous l'effet de l'eau qui coule par petites gouttes au cours des années. On absorbe, nous les êtres vivants, sans arrêt, des affaires qui finissent en déjection, la sueur, enfin il y a 1000 choses qui prouvent qu'il y a des pores partout, dans notre corps aussi. Et le 4e argument, il est un tout petit peu plus tordu chez Lucrèce. Tu supposes 2 pierres plates qui sont collées l'une contre l'autre, tu les écartes, il faut bien qu'il y ait un laps de temps, tout petit, mais un laps de temps pendant lequel il n'y a rien, avant que l'air vienne s'interposer de nouveau. Et quant à Démocrite, il en avait d'autres, c'est un peu la publicité pour Benko, tu verses de l'eau sur la cendre, ça augmente presque pas de volume. Il faut qu'imaginer des vides dans la cendre. Benko, c'était une affaire de chocolat, la publicité, c'était je prends un verre d'eau, je le mets dans un verre de Benko qui est plein à ras-bord et ça déborde pas. Donc tout ça pour vous dire, non pas que c'est ma religion, mais que c'est quand même des arguments rationnels fondés sur une expérience incontestable, certes grossière, pas aussi subtile que celle de Galilée ou celle des savants modernes, qui fondent toutes ces affirmations. Oui. Oui, il faut pour s'occuper de ces choses-là. Oui.
Votre thèse de doctorat est sûrement sur les épicuriens.
Oui, maintenant on fait des travaux, c'est le cursus depuis une dizaine d'années, il y a la thèse et puis ce qu'on appelle l'habilitation. La thèse c'était sur Épicure et Lucrèce, et l'habilitation, une sorte de deuxième thèse sur Démocrite. Donc, j'ai fini par le premier, dans le temps.
C'était très plaisant d'avoir tout de suite la traduction.
Bon. Oh, vous êtes bon. Merci. Votre présence, un jour compliqué. Bon, je vous en prie. Ok. Oui. Les gens commencent à rentrer.
Pas trop le soir parce que j'en peux pas, c'est dur à digérer.
Moi, j'ai une question.
Voilà. Avec plaisir.
La conférence, enfin, l'intitulé de la conférence, c'était philosophie des atomes et des sources du plaisir. On a beaucoup parlé des atomes, mais
exact.
Vous n'avez pas beaucoup parlé du plaisir. Et simplement, peut-être, qu'est-ce qu'il en est du plaisir chez nos atomistes?
Non, vous avez raison, côté proportion. Il en est que, encore une fois, Démocrite, il est moins concerné par cette deuxième partie de titre. Il en parle, il n'est pas contre, mais on ne peut pas parler d'hédonisme démocritéen et donner le plaisir. On parle d'hédonisme épicurien, bien sûr, c'est la philosophie du plaisir, c'est la philosophie qui a fait qu'Épicure a été considéré comme une sorte d'antéchrist pendant tout le Moyen-Âge. Dans La Divine Comédie de Dante, Démocrite jouit d'un grand respect, il est au purgatoire, il n'est pas parfait quand même, alors qu'Épicure, c'est vraiment le prince des hérétiques, c'est l'affreux. Et les anciens, surtout ceux de cette époque, 3e siècle avant Jésus-Christ, mais Aristote aussi, discutent pour savoir qu'est-ce que c'est que le souverain bien. Ça aussi, ça n'a pas beaucoup changé, hein. C'est un autre nom pour dire le bonheur, le bien suprême. Et alors que les stoïciens disent que c'est la vertu, que Aristote dit que c'est beaucoup de choses, une vie qui mêle à la fois les honneurs, la vie théorétique, le plaisir, les épicuriens disent que c'est le plaisir. Alors, j'ai terminé par ce texte de Lucrèce qui ouvre le poème. Au printemps, toute la nature nous montre que ce vers quoi on tend, c'est pas le but que je vous prescris, c'est... Qu'est-ce qui nous pousse? Le but, il est derrière nous, en arrière de nous. Vous avez qu'à regarder les animaux et les petits-enfants. Vous avez la démonstration que tout être vivant court vers le plaisir et fuit la douleur. Ce sont des citations, hein, quasiment. Alors, quand on lit ça, on peut être un peu perplexe. Évidemment, c'est des êtres qui ne sont pas rationnels. Alors, on se dit, bon, pour nous, c'est pas assez compliqué comme bonheur, le plaisir des petits-enfants et des animaux. Mais enfin, la sagesse des nations, quand elle parle de joie de vivre des enfants, elle exprime assez bien l'idée épicurienne, selon laquelle, spontanément, nous éprouvons une joie de vivre, un bonheur d'être, et c'est surtout la civilisation, les complications de la raison humaine, la ratiocination, comme on dit, qui pose une infinité de problèmes que finalement on n'aurait pas si on suivait la nature. C'est le grand mot de ces écoles, suivre la nature. Les stoïciens disent aussi qu'il faut suivre la nature. Or, ce que c'est la nature, la forêt vierge ou la nature humaine, c'est un peu les deux. Et qu'est-ce que je peux vous dire pour aller éviter bien ? Donc, c'est la société surtout, une société de crise qui est supposée produire une foule de désirs infinis qu'on ne peut jamais satisfaire, l'amour-passion, dont j'ai dit qu'il le critique, l'envie de passer devant l'autre, le désir de domination, le désir aussi pas totalement absurde d'après les épicuriens de gesticuler pour arriver plus tôt au sommet, parce que plus on est vers le bas, plus on est exposé à la mort, la pauvreté aux portes de l'enfer de Virgile, il y a entre autres parmi les figures allégoriques, il y a la pauvreté. Quand on est pauvre, pas la peine d'insister aujourd'hui, on est moins proche de la santé. Qu'est-ce que je peux vous dire en essayant de tout rassembler? L'épicurien, encore une fois, vous dit que un calcul rationnel des plaisirs et des peines fait que si tu te débrouilles bien, si tu ne laisses pas couler les plaisirs entre tes doigts, comme dit Lucrèce quelque part, ben, au total, tu peux jouir de la vie, savoir jouir de l'instant. Hein. L'insensé, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas philosophes et pas épicuriens en particulier, ils s'accrochent sans arrêt à une marotte, à un désir pour le futur ou à une nostalgie du temps passé. Si tu vis comme il faut, c'est-à-dire en te compliquant pas trop la vie, en t'abstenant de certaines activités comme la vie politique, mais c'est pas interdit. Épicure écrit à un de ses disciples qui est ministre d'un roi en lui disant « Je te déconseille pas de quitter ta carrière, il y en a pour qui l'agitation c'est c'est un dopant plus qui leur fait finalement moins de mal que l'inactivité ou que le retrait des affaires. Enfin, au total, comme dit le proverbe romain, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Comment on dit ? Oui, c'est ça, elle est proche du Capitole, mais enfin, il vaut mieux pas aller sur la roche tarpéienne, donc on peut avoir eu le pouvoir au Capitole et on peut être condamné à mort le lendemain. Bon, au total, si tu fais bien tes comptes, une vie retirée d'une vie politique qui ressemble par certains côtés à celle d'aujourd'hui, quoi. C'est des gens peu crédibles, comme on dit à la télé, puisque les successeurs d'Alexandre sont des généraux qui se taillent des morceaux d'empire. Il y en a un qui fonde une dynastie en Égypte, Ptolémée, en s'emparant du cadavre d'Alexandre pour légitimer son nouveau pouvoir. Un autre, Séleucos, se taille un petit empire à la dimension de la Perse, puisqu'Alexandre avait conquis à peu près tout le monde connu, Chine exceptée, de la Grèce jusqu'à l'Inde. Les gens qui gouvernent Athènes, c'est à tour de rôle des fantoches, des marionnettes, des fils de tel ou tel général d'Alexandre, des diadoques, qui sont en train de mener une sorte de bataille gigantesque pour se tailler des empires. Alors dans cette époque-là, l'abstention politique, le fait de vivre caché, tout le monde connaît ça, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, subtilement détourné par des rigolos en 68, pour vivre heureux, vivons couchés, il y avait écrit sur pas mal de murs. Doctrine épicurienne, c'est une des facettes de cette recherche d'un plaisir calculé, mais pas calculé au sens boutiquier du terme, au sens d'une pesée de ce qui peut nous procurer des embrouilles amini, des complications, et de ce qui peut nous procurer l'ataraxie. Vous savez que c'est le grand mot, hein, l'absence de trouble, tarakos, le trouble. Faut lire. Un, pour pas que je vous endors, mais deux, parce que on ne peut pas résumer tout ce que j'aurais pu et dû dire, effectivement, là-dessus. Il y a quelque chose d'attentatoire à beaucoup de pensées religieuses, ça c'est certain, au XVIIe, au XVIIIe siècle, on se réclamera d'Épicure. Je vous signale, si vous lisez des textes de philosophes, que dès que vous avez tout ce qui respire, court vers le plaisir et fuit la douleur, vous avez un petit clignotant rouge qui vous signale qu'il y a une réminiscence d'Épicure, consciente ou pas. Vous trouvez ça chez Dolbach, vous trouvez ça chez Diderot, chez le marquis de Sade, alors avec des variantes, hein, Sade est un cas à part, mais ça veut dire que fondamentalement, ce qu'il faut rechercher, c'est le plaisir. Et Épicure, c'est mon dernier mot là-dessus, distingue donc entre des plaisirs immédiats, ponctuels, qui sont très plaisants, puisque c'est des plaisirs, tout plaisir est un bien, écrit-il, et des plaisirs plus durables, comme ceux de l'amitié, par exemple. Donc le sage doit savoir sélectionner. Parfois, il faut qu'il passe par-dessus un petit plaisir du moment qui va susciter une avenue d'embrouillamini, qu'il évite l'amour-passion, qui peut être exaltant et plaisant un moment, mais qui est source de jalousie et de mille complications ultérieurement. Et surtout qui est infini, on ne sait jamais si l'autre en donne autant que nous. Et inversement, pour prendre un exemple idiot, il faut qu'il accepte un petit coup de lancette sans anesthésie ou de boire une potion amère pour recouvrer un grand bien, donc du plaisir, c'est-à-dire la santé.
Est-ce qu'il y a des critères
sur le passage convers ? Oui, c'est, comme on dit, c'est une très bonne question. Oui, comment distinguer les plaisirs ? Tous les plaisirs sont bons. Tout plaisir est un bien, toute douleur est un mal. C'est dans la lettre, hein, c'est des citations.
L'infantilisation comme...
Oui, oui, alors, réponse, ça va être court, je vous le promets, mais en deux temps. Réponse numéro un, le critère de ce qu'un plaisir est naturel, c'est qu'il est borné, fini, il y a un terme. On peut boire jusqu'à plus soif, je disais, on peut manger à satiété. On n'est jamais suffisamment riche, on n'est jamais suffisamment glorieux. Réponse numéro deux, comment distinguer les plaisirs ? C'est pas dans les textes, mais en bricolant, on trouve ça très vite, par leur durée et par leur intensité. Donc, on peut penser très vite à un plaisir très très intense, mais s'il est surajouté, s'il y a une deuxième couche, si je peux m'exprimer encore une fois en argot, qui est l'amour-passion, résultat, c'est compliqué. Et il y aura beaucoup de complications de l'ordre de la douleur ou de la peine. Mais je retiens à mon idée de deuxième couche. C'est-à-dire que pour l'épicurien, la base qui est foncièrement animale, c'est bien, c'est la nature. Ou le petit enfant, si vous voulez absolument rester dans l'humain. On entre dans une maison et un enfant, la réflexion classique, ah, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est la joie. Et c'est la complication qu'apporte la raison humaine qui en rajoute, qui fait des comparaisons avec les voisins, qui essaie de manger 8 fois alors que l'animal il mange sa dose et puis en général ça s'arrête, qui est source de la plupart des problèmes. Donc il y a ça aussi qui est assez sympathique, c'est que les désirs vains, on se les crée. Pas besoin de faire une ascèse de 10 ans ou des efforts sur soi qui nous font beaucoup souffrir. C'est plutôt un retour, peut-être pas au temps des cavernes, mais à une vie naturelle, qui est l'objet de la philosophie.
C'est la même chose, parce que vous parliez du fait que chez Lucrèce, on s'arrête aux hypothèses, on ne va pas chercher une explication définitive à un phénomène naturel. Simplement, ce qui a l'air de suffire, c'est de pouvoir se protéger, se rassurer des phénomènes en ayant une explication par les atomes. Donc finalement, la science s'arrête aussi. À la fois, on a une physique, mais c'est une science qui s'arrête aux hypothèses.
Ben, d'abord, pardon de jouer au professeur, mais les anciens, ils distingueront jamais la science et la philosophie. La philosophie est la reine des sciences, la science des sciences, tout ce qu'on veut. Et puis surtout, la physique, je le répète, est une partie de la philosophie. D'ailleurs, vous savez qu'encore Descartes écrit des méditations de prima philosophia, c'est-à-dire de philosophie première. Là, il parle de Dieu, de l'âme. Et ça veut dire qu'il y a une autre partie de la philosophie qui est la philosophia naturalis ou physique, la philosophie naturelle. Même Newton, c'est la fondation de la physique scientifique moderne, ça s'appelle mathématique, c'est ça toute la différence, de la philosophie naturelle. Donc c'est de la physique sous forme mathématique, mais ça s'appelle encore dans sa façon de parler de la philosophie. Et maintenant je vous réponds directement, parce que là c'était une petite correction de mots pour jouer les professeurs. J'ai dit vite, mais je l'ai dit, Lucrèce, comme Épicure, ça j'ai oublié de le préciser, il est absolument fidèle à Épicure, nous propose à beaucoup d'endroits, dans les chants 5 et 6 de son poème, des listes, comme on dit, d'explications multiples. Donc j'ai pris l'exemple de la foudre ou du tonnerre. Ça peut être des nuages, l'un avait déjà du feu en lui et ça explose, ou bien c'est le frottement de deux nuages, ou bien c'est un nuage qui cogne une montagne et qui avait déjà du feu en lui, etc. J'ai dit très vite, premier étage, deuxième étage de la fusée. Il ne faut pas dire. Comme le fait remarquer un professeur Nimbus qui est content de s'offrir la personne de Jean-Paul Sartre. Mais enfin, il a raison, le professeur que je cite pas. Il ne faut pas dire, comme a dit Sartre, que pour Épicure, le matérialisme et l'atomisme, entre autres, est vrai parce que libérateur. Il est libérateur, au contraire, parce qu'il est vrai. Ça veut dire que dans le deuxième étage de la maison ou de la fusée ou de ce que vous voudrez, mais il faut vraiment retenir cette idée de deux niveaux. Pour les explications de détail, pour ce qui fait que les astronomes platoniciens passent leur vie à s'user, à regarder les positions des planètes dans le ciel tout au cours de l'année, à faire des calculs compliqués, l'épicurien s'en fiche un peu. C'est pas très moderne, je sais, mais c'est comme ça. Et ce que vous dites est vrai, à savoir que dans cette partie de la philosophie qui s'appelle la physique, si on me dit que le tonnerre il est causé ou la foudre par telle ou telle ou telle cause, du moment que j'ai une liste, ça me suffit. Que seulement le mythe soit exclu. Lucrèce ajoutera d'ailleurs, au cas où vous avez un doute, n'allez évidemment pas penser que c'est Zeus qui envoie la foudre pour punir les méchants. Et d'ailleurs, c'est de l'humour de Lucrèce, est-ce que quand il envoie la foudre sur les temples où on l'adore, lui Zeus, c'est pour s'exercer ses muscles. Donc toutes les explications en question sont nécessairement compatibles avec une vision atomistique débarrassée de la présence des dieux dans nos affaires. Mais le premier étage, le socle de la fusée, ce qui justifie que le matérialisme n'est pas vrai parce que libérateur, ça m'arrange bien, ça va me donner la paix de l'âme. Mais c'est peut-être pas vraiment vrai. Il est au contraire libérateur parce que vrai. C'est le fait que, je vous répète, qu'il y a des dogmes absolument intangibles que l'épicurisme considère avoir démontrés par A plus B. Tout est fait d'atomes ou de vide. L'univers est infini. Notre monde est né un jour par agrégation d'atomes. Un jour, il se dissoudra en poussière. La mort est un sommeil éternel. Le plaisir est le souverain bien. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une hypothèse parmi d'autres. Ça, c'est des dogmes intangibles qui font le cœur de l'épicurisme. Voilà. Je vous ai satisfait ?
Et donc, si le plaisir est souverain bien, je suppose à cause de ça,
oui,
que devient l'autre dans ce cas-là ?
À cause de ça, hein, oui.
De ça,
deux, oui. Oui, mais non, mais ça, on peut pas être présenté comme un disciple d'Épicure, parce que vous savez bien que épicurien est devenu une sorte d'injure, et de toute façon, l'image générale de l'épicurien viveur baffreur, c'est une image populaire due surtout au père de l'Église catholique. Vous entendez bien que c'est pas ça. Dans sa vie concrète, Épicure, et par rapport aux sages stoïciens qui disaient que le souverain bien c'était la vertu, ça devait pas être très très différent. Mais quand on parle du plaisir dans l'épicurisme, c'est pas que ça, mais c'est entre autres le plaisir de l'amitié. Il est impossible de vivre heureux si on n'a pas d'amis. Et mille jolies phrases à ce sujet, Épicure avait tellement d'amis que ses amis se comptaient par villes entières. Il a entretenu, ce qui fait que parfois on a comparé à Saint Paul, mais enfin c'est un rapprochement très superficiel, mais il a entretenu une correspondance suivie avec des gens qui étaient de son école mais qui étaient dans d'autres villes. Le fait que l'amour-passion soit tellement dévalorisé, c'est en opposition avec l'amitié, qui est un sentiment plus ouvert, moins exclusif. On se méfiera des gens qui vous disent qu'ils ont 22 meilleurs amis, mais il est clair que ça se partage plus que l'amour, au sens romantisé, archi-romantique du terme, l'amitié. Donc, évidemment, c'est le plaisir de manger, d'être repu, d'avoir le ventre plein. La racine de tout plaisir, a-t-il dit de façon très crue, c'est le plaisir du ventre. Du ventre, en grec, gaster, hein, pas du bas-ventre, du ventre. Il faut avoir le ventre plein pour penser à la suite. Mais, encore une fois, ce n'est pas vécu parce qu'on n'est pas au XXe siècle ni au XVIIe comme un plaisir purement égoïste, le plaisir dont on parle chez les anciens. L'homme est, par définition, social. C'est Aristote, alors là, pour ce coup-là, on pourrait le citer tout en commentant Épicure, écrit quelque part que celui qui est un solitaire, celui qui est tout seul, c'est soit un monstre, soit un dieu. Plutôt, il dit c'est soit un dieu, soit un monstre. Un homme ne peut pas être pensé tout seul chez les anciens. L'histoire d'un état de nature où les bons hommes se promènent tout seuls dans la forêt puis se réunissent, c'est impensable. Je vous en prie.
Maintenant, on va les chasser pour manger.
Et il faut chasser, surtout, surtout aujourd'hui. Voilà. Je vous en prie.
Ben oui,
mais
ça fait partie des plaisirs, on n'a pas dit avec ça, on a dit juste qu'il faut.
Au revoir.
J'étais content de vous rencontrer, je vous entendais dans le
filambule. Ah oui, c'est gentil, exactement.
Je vous entendais souvent, puis même, j'ai encore dit, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un vieil enregistrement où on entend votre voix.